Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour sur les ondes de CFAC 88.3 pour le 9, 9h17. Ryan, je me tourne vers toi. C'est toi qui as le premier sujet ce matin, puisque tu voulais parler corruption et environnement.
Alors c'est ça. Du coup, on a un indice de corruption qui a été mis en place actuellement, très récemment. Ça a été fait par une ONG qui s'appelle Transparency International. Et ça, c'est une chose, c'est quand même assez choquant sur les chiffres. Et oui, en effet, en vue des vagues de crise climatique, plusieurs experts se sont posé la question du rapport qu'ils pouvaient avoir avec la pollution. Et en effet, ce navire qui est notre planète est actuellement, selon eux, dans une tempête. C'est la crise climatique exacerbée par la corruption. Selon cet indice de corruption qu'on appelle l'IPC en 2024, qui a été publié du coup hier, aujourd'hui, deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur 100, sachant que 0 correspond à une transparence absolue et 100 constituerait du coup un extrême cas de pollution. Donc, avant de commencer, sachez une chose, c'est quoi concrètement l'IPC ? Bah, l'IPC, ça a permis de classer du coup 180 pays selon les perceptions de la corruption dans leur secteur public. Les notes vont entre 0, comme je vous ai dit, et 100. Et ces indices sont construits à partir de 13 sources externes comme les banques mondiales, les instituts spécialisés en analyse de risque, et donc un thermomètre qui nous donne un peu une image globale, mais qui ne mesure pas directement si les pots de vin ni les détournements concrets de fonds qui ont pu avoir lieu. C'est ce qui a été poussé dans cette analyse. Et vis-à-vis de ça, certains pays portent pourtant clé dans la diplomatie climatique, enregistre des baisses inquiétantes. On va prendre plusieurs exemples pour ce titre. On a notamment, par exemple, le Brésil, qui a été l'hôte de la CQP 30 et qui est tombé à 34, son plus bas score historique. Il est pourtant garanti 1,30 milliard de dollars pour financer la lutte contre le changement climatique d'ici 2035. On a aussi l'Azerbaïdjan qui a été aussi mis en place pour le COP29 qui ne dépasse pas 22. Or, cette conséquence a accueilli à peu près l'équivalent de 1773 lobbyistes du secteur fossile, soit plus de n'importe quel groupe d'intérêt. On a aussi également l'Afrique du Sud qui a été hôte du G20, qui a perdu 3 points en 5 ans. Et ça a plombé pas mal de scandales, notamment la corruption à Eskom sur son fournisseur d'énergie. Et on parle d'un milliard de rands volés chaque mois, soit un peu plus de 56 millions de dollars. Mmh. En grand perdant, on a également les États-Unis qui ont chuté de 65 points et la France avec 67 points. La preuve de que la corruption ne connaît pas de frontières actuellement, elle a été vraiment sur un impact international. Mais pourquoi cette baisse avant tout ? On a eu l'avis de plusieurs experts. Notamment qui ont été expliqués sur trois facteurs. Ça a été d'abord l'emprise des lobbies fossiles. On l'a vu, je pense, si vous en rappelez, en COP 29, où les pétroliers étaient presque aussi nombreux que les négociateurs lors de cet événement. Ce groupe utilise leur pouvoir notamment pour freiner les engagements climatiques et protéger leurs prix, selon plusieurs experts environnementaux. On a vu de ça aussi également l'opacité des fonds climatiques, car des milliards de dollars sont promis chaque année, mais sans garantie réellement solide et établie, et sont siphonnés avant d'atteindre la population vulnérable qui nécessite ces fonds pour pouvoir mettre en place des événements et des choses plus structurées. On parlera notamment des sécheresses, des inondations qui ont dévasté plusieurs agricultures, mais l'aide est captée par des élites, selon eux, corrompues. L'érosion des grands pouvoirs aussi, des contre-pouvoirs, excusez-moi. Effectivement, là où la corruption prospère, les journalistes et les activistes, et nous également les ONG, sont muselés, selon Transparency International. On rappelle que l'équivalent de 1013 défenseurs de l'environnement a été assassiné depuis 2009, selon eux, et ce principalement dans des pays à fort taux de corruption. Mmh. Mais actuellement, on a eu aussi plusieurs réactions d'intervenants qui ont pu laisser quelques commentaires vis-à-vis de ce point-là. Notamment, il était, selon eux, je parle bien sûr des experts gouvernement climatique de référence française, américaine et du Danemark, qui a été un des pays les moins corrompus. Et effectivement, le Danemark ne l'était pas. Selon eux, il est impératif de renforcer la traçabilité des fonds sans mécanisme solide de surveillance. Les promesses restent des vœux pieux. Et également des militants environnementaux qui ont voulu se faire entendre sur ça, notamment sur X, où ils ont dit que ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies sacrifiées, des forêts rasées, des océans souillés, pendant que certains s'enrichissent sur le dos des générations futures. Vis-à-vis des analyses purement économiques, le ton restera quand même sur cette citation que j'ai trouvée très intéressante. Si les pays riches comme les États-Unis ou la France reculent dans l'IPC, c'est aussi parce que la corruption prend des formes plus subtiles, notamment les pressions de lobby, les financements occultes, les lois redirigées par des multinationale elle-même. Quand je parle de financement occulte, je parle de tous les financements qui ne sont pas déclarés et prohibés auprès des populations, donc qui ont un grand manque de transparence. Vis-à-vis de ça, je me suis aussi intéressé un peu sur la situation des Canadiens et j'ai envie de vous demander, selon vous, le Canada, comment se situerait le Canada, selon vous?
Mais donc, juste pour faire un petit résumé de tout ça, essentiellement, c'est l'argent que normalement les pays devraient mettre ou qui disent qu'ils vont mettre.
En fait, il y a plein de... Les facteurs principaux, je dirais, ça a été l'emprise des lobbies fossiles qui a joué beaucoup de... une grande note sur ça, en fait. Parce qu'il y a certains blocages, notamment sur les énergies renouvelables ou même sur les dispositifs de technologies poussées pour le cadre des énergies renouvelables qui ont été démontrés comme étant bloqués par certains lobbies via des brevets ou autres points. Il y a certains lobbies qui développent des brevets qui sont à ce même titre dans le développement durable, mais ils ne les utilisent pas. Mais vu que c'est leur brevet, la réutilisation est impossible sous une vingtaine d'années.
Donc, qui empêche à ce moment-là la rénovation, mais la...
Également, ouais. Et aussi les fonds climatiques, je vous l'avais précisé, ça aussi c'est un grand facteur. C'est qu'il y a plusieurs, les milliards d'euros qui sont dits investis en général sont lapidés sur d'autres thématiques avant vraiment d'arriver aux plus nécessiteux et aux gens qui peuvent vraiment apporter une plus-value sur le développement durable et l'écologie.
Pour le Canada, j'ai envie de dire, parce que autant d'un côté, on dit qu'on est pour l'environnement, autant une de nos industries fortes, ça reste quand même le pétrole et le fractionnement dans l'Ouest. Fait que je sais pas, on doit pas être très élevé non plus dans cet indice-là qui de d'études. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est quoi? C'est un indice?
C'est un indice de corruption.
De corruption, ouais.
Après, je tiens à préciser que ça a été fait par Transparency International. Mm-hmm. Donc, ça reste un organisme ONG. Ils ont leur propre manière de comprendre et de faire l'expertise. Donc, comme je vous ai dit, les pots de vin ou les autres thématiques ne sont pas abordées. Donc, peut-être que si on prend en considération cela, il y a des choses à revoir. Mm-hmm. En tout cas, peut-être, mais les deux collègues voudraient réagir sur ça avant que je donne la fameuse réponse.
Excusez-moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse parce qu'on a comme cette image-là, comme Alex dit, que le Canada, on est un pays quasiment parfait, surtout au sujet de l'environnement. Alors, j'ai le goût de dire qu'il n'y a pas beaucoup de corruption, mais je pense que la réponse risque de nous surprendre.
Effectivement.
Je suis du même avis qu'Emmy. Je préfère t'écouter.
Sachez-le, le Canada est classé 14e des pays les plus corrompus. Effectivement, on parle d'un classement de 74, une note de 74 sur 100.
Ah ouais.
Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui sont intervenus pour cela. Je sais pas si j'ai le temps de lister, mais en tout cas, je dirais...
C'est qu'il faut se rapprocher du zéro.
Faut se rapprocher du zéro. Ça, okay, quand t'as 100 sur 100, techniquement, t'es pas bon.
Genre, okay, bon.
Si tu veux un titre d'exemple... 74, ouais, non, c'est un bon score. Ça reste quand même un bon score sur le classement. Mais si tu veux un exemple, genre, t'as les États-Unis, ils ont 67, tu vois, de perception de corruption.
Okay.
Et les pays vraiment, vraiment...
Et le Canada, on a combien?
74. Il y en a.
C'est pire.
Mais c'est pas les...
C'est pas le meilleur.
Les lobbies pétroliers n'empêchent pas tout non plus.
Ouais.
Mais
par exemple, le Soudan au sud et la Syrie sont vus comme les pays actuellement les plus corrompus en termes de.
Oui, ça, eux autres, c'est le pétrole complètement.
Là, et le Danemark et la Finlande avec une note frôlant la perfection et très, 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 très.
Okay.
Et c'est vraiment les deux pays les moins corrompus selon eux. En tout cas, vis-à-vis du Canada, certains points ont été mis en place. L'argument principal, ça a été le poids des lobbies fossiles qui ont été vraiment un frein aux politiques vertes du Canada, qui a été explicitement dit. Et également le fait que des promesses climatiques ont été proposées, mais sont actuellement en péril, ce qui a aussi fortement joué sur la note. On parlera également des réglementations encore trop laxistes sur les grandes entreprises polluantes, ainsi que le manque de transparence sur l'utilisation des fonds destinés à la transition énergétique et les contradictions entre les annonces politiques et les actions réelles sur ces thématiques-là.
Voilà, ça on en a quelques exemples des fois au Canada. Puis comme tu l'as dit, d'organiser les conférences sur l'environnement dans des pays pétroliers.
Mais en vrai,
c'est toujours un peu ironique. Là.
Et
c'est...
surtout qu'il faut comprendre un truc, c'est que en vrai, il y a plusieurs spécialistes économiques qui ont dénoncé le fait que depuis 2015, le Canada s'engage à verser 5,3 milliards de dollars aux pays en développement pour les aider à lutter contre les changements climatiques. Mais il y a plusieurs rapports récents qui ont montré que près de 30% de ces fonds sont allés sur des entreprises canadiennes plutôt que des initiatives locales.
Bon.
Ce qui a aussi mis un manque de crédibilité internationale. Selon l'ONG, bien sûr, je dis que tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est vraiment selon l'avis de plusieurs experts et de l'ONG. Ce n'est pas ma pensée personnelle. Ni
mais ça reste quand même des exemples qu'on est capable de trouver. Fait que ça reste des faits malgré tout, mais comme tu le dis, c'est ça. C'est de la pensée de la parole aux actes, souvent, c'est pas...
C'est très compliqué.
C'est ça.
Ça reste de la politique, en tout cas, mais en tout cas, si je devrais conclure sur ça, je dirais que selon plusieurs rapports et autres, je reprendrai les mots de Mayra Martina, qui est la directrice de Transparency International. Nous devons éradiquer la corruption avant qu'elle ne rende impossible une action climatique significative. En effet, si la corruption est un frein invisible qui empêche d'agir contre le climat, alors il est aussi important de lutter contre elle pour réduire nos émissions de CO2. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir des milliards s'évaporer pendant que les catastrophes s'enchaînent. La balle est dans votre camp, chers auditeurs et auditrices. À vous de briser ce cercle vicieux avant qu'il nous enferme définitivement dans un avenir invivable.
Ou essayer d'avoir des politiciens qui passent à l'acte.
Ou alors essayer aussi de ne pas trop utiliser ChatGPT, ça consomme. N'oubliez
oui,
pas.
C'est vrai, il y a ça aussi. Fait que tout est avec modération.
Tout est avec modération. Et oui, c'est un équilibre perpétuel qu'on est censé respecter, que ça soit dans la nature ou dans nos propres vies. C'est un exercice compliqué, je le comprends, chers auditeurs et auditrices, mais pensez à vous du futur, à vos générations futures. N'essayez pas de reproduire les mêmes erreurs qui vous ont été faites dans toute votre vie.
Bon, mais merci pour ça. Courte pause musicale ici sur les ondes de CFAQ. Simon Boisseau en musique.